C'est super, je n'ai pas de pendule en face de moi ce matin. Donc quand je commencerai à vous voir partir, je me dirai, Daniel, arrête-toi donc de causer un peu. Non, c'est vraiment, je suis vraiment heureux d'être là avec vous ce matin. Vous savez, aujourd'hui, c'est le jeûne fédéral. Alors pour nos amis qui ne sont pas forcément très habitués à notre histoire de Suisse, eh bien, la Suisse avait décrété, déjà dans les années 1830, une journée de jeûne fédéral. Avant, déjà, il y avait des temps de jeûne et de prière qui se faisaient dans les périodes troubles de l'histoire. C'était quelque chose qui s'est fait assez spontanément. Et à partir de 1838, c'est l'Assemblée fédérale de l'époque, la Diet, qui a décrété un jour par année de jeûne pour le pays. Un temps de repentance et puis un temps également d'action de grâce pour la protection que Dieu avait apportée à notre pays. Et aujourd'hui, eh bien, c'est un de ces jours. Et du reste, cet après-midi, il y en a certainement qui iront marcher depuis l'un des quatre points de départ pour converger vers la cathédrale à 15h pour cette action de grâce. Et c'est pour ça que l'on mange, qu'est-ce qu'on mange le jour du jeûne fédéral ? Le gâteau pruneau, ah, le gâteau, la tarte au pruneau, voilà. Alors ce fait de prêcher le jour du jeûne fédéral m'a conduit à un thème qui est celui d'être des artisans de paix. Heureux les artisans de paix ou les faiseurs de paix, donc PAX, car ils seront appelés enfants de Dieu. Heureux les artisans, les faiseurs de paix, car ils seront appelés enfants de Dieu. Et je crois que nous sommes appelés vraiment à être des artisans de paix dans un monde qui devient de plus en plus violent. Et je ne parle pas seulement de violence physique, mais je parle aussi de violence avec les mots, avec les réactions que l'on a, avec nos manières de réagir aux propos qui ne nous plaisent pas. Alors, je me suis demandé si j'étais la bonne personne pour parler sur ce thème, parce que, voilà, je ne suis pas toujours un artisan de paix. Je dois vous le dire. Parfois, je crois que j'ai raison, et puis si je suis sûr que j'ai raison, eh bien, je ne vais peut-être pas être un artisan de paix à ce moment-là. Mais Dieu me travaille, et puis, voilà, Salomé disait encore dans sa prière d'introduction qu'on ne soit pas bloqué par des sentiments de... entre autres, ben, d'avoir toujours raison ou de se croire supérieur aux autres. Donc, vraiment être... Actuellement, la vérité n'existe plus dans ce monde. Hein. Vous voyez, vous pouvez être candidat à la présidence de l'un des plus grands pays du monde et vous pouvez déclarer des propos tout à fait ineptes et des contre-vérités et des mensonges et ça passe très, très bien. Et il n'y a pas que des candidats, c'est vraiment quelque chose qui est assez général avec les réseaux sociaux. Lisez les réseaux sociaux, voyez comment sont les réponses. Si on dit quelque chose eh bien, qui ne plaît pas à une partie des gens qui nous lisent, eh bien, tchac, la réponse est cinglante. On ne dialogue plus, hein, on se lance des slogans à la tête et c'est assez dramatique. On voit aussi avec la guerre, là aussi, on est quand même dans une période qui, sur le plan militaire, est extrêmement troublée. On voit Israël et le Hamas. On voit l'Ukraine et la Russie. On voit le Soudan. On voit d'autres pays. On voit des attentats de plus en plus nombreux qui se multiplient. Donc nous sommes dans un temps, une société de violence, et voilà que Dieu nous appelle à être des faiseurs de paix. Et cette paix, eh bien, elle fait partie de la nature même de Dieu. Jésus était appelé par Ésaïe le prince de la paix. En effet, un enfant nous est né, un fils nous a été donné, c'est pas encore Noël, mais et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera merveilleux, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Et Jésus lui-même dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Et nous sommes aussi appelés au ministère de réconciliation. Dieu, tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Donc nous sommes réconciliés, donc ça veut dire que nous sommes en paix. Nous sommes en paix avec Dieu, grâce à Dieu. Rechercher la paix avec tous et la progression de la sainteté. Si cela est possible, dans la mesure où cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Détourne-toi du mal et fais le bien. Recherche la paix et poursuis-la. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui travaillent à la paix. Donc on voit qu'il y a de très nombreux passages, et il y aura encore beaucoup d'autres versets bibliques que l'on pourrait citer qui montrent cette importance de la paix, que Dieu est un Dieu de paix, que Jésus est le prince de la paix, que Dieu a fait la paix avec chacun d'entre nous. Mais nous allons lire un exemple d'une personne qui a été vraiment, qui a été un agent de la paix, et c'est une femme. Ce matin, nous allons parler d'une femme remarquable de l'Ancien Testament. Une femme qui a vraiment agi d'une telle manière que ça a permis d'éviter un bain de sang pour David. David, cet homme paisible, cet homme qui avait épargné Saül deux fois, eh bien, à un moment donné, il est tombé dans une colère absolument incroyable. Et c'est intéressant, le texte que nous allons lire se trouve entre les deux moments où il a sauvé la tête de la vie de Saül alors qu'il l'avait à portée de lance. On voit dans le chapitre 24 de 1 Samuel que Saül était à En-Gedi et David aurait pu le tuer et il ne l'a pas fait, il l'a épargné parce que c'était le oint de l'Éternel. Au chapitre 26 de 1 Samuel, une fois encore, il épargne la vie de David. Et alors, lisons le chapitre 25, parce que là, on voit un autre type, on voit un autre David. On va lire le chapitre, parce que c'est bien aussi, puis c'est une histoire, quoi, c'est cool. Samuel mourut. Tout Israël, c'est au verset 1 du chapitre 25 de 1 Samuel. Tout Israël se rassembla pour le pleurer et on l'enterra chez lui à Rama. Quant à David, il se leva et descendit au désert de Paran. Il y avait à Mahon un homme très riche qui possédait des biens à Carmel. Il avait 3000 brebis et 1000 chèvres. Et il se trouvait à Carmel pour la tonte de ses brebis. Le nom de cet homme était Nabal, et sa femme s'appelait Abigail. C'était une femme pleine de bon sens et très belle, tandis que son mari était dur et méchant dans sa manière d'agir. Il descendait de Caleb. Voilà, deux des protagonistes. D'une part, un homme, Nabal, à la tête dure, un homme méchant, un homme violent. Avec lui, on ne sait pas comment ils se sont mariés, Abigail, une femme pleine de bon sens, une femme qui était, il nous a dit également, qui était belle. Donc voilà deux de ces personnages. Alors, et on arrive le troisième. Alors qu'il était au désert, David apprit que Nabal tondait ses brebis. Il envoya 10 jeunes gens vers lui en leur ordonnant « Montez à Carmel et allez trouver Nabal. Vous le saluerez en mon nom et lui direz « Longue vie à toi ». Que la paix soit avec toi, avec ta famille, avec tout ce qui t'appartient. Maintenant, j'ai appris que tu as chez toi les tondeurs. Or, lorsque tes bergers étaient avec nous, nous ne leur avons fait aucun mal et rien ne leur a été volé durant tout le temps où ils étaient avec nous à Carmel. Demande-le à tes serviteurs et ils te le confirmeront. Que ces jeunes gens trouvent donc grâce à tes yeux, puisque nous venons dans un jour de joie. Donne donc à tes serviteurs et à ton fils David ce que tu as sous la main. David était, il fuyait, hein, il n'était pas dans une situation confortable du tout, il était dans la fuite. Et voilà qu'il apprend que Nabal, c'était la fête chez Nabal, c'était la tonte des brebis. Donc après, on allait vendre la laine, c'était vraiment un jour de fête. Alors il envoie des serviteurs à lui pour demander de quoi se sustenter. Lorsque les hommes de David furent arrivés, ils répétèrent toutes ces paroles à Nabal au nom de David, puis ils se turent. Et alors Nabal répondit aux serviteurs de David, « Ah, qui est David ? Qui est le fils d'Isaïe ? Il y a aujourd'hui beaucoup de serviteurs qui s'échappent de chez leur maître, et je devrais prendre mon pain, mon eau, mon bétail que j'ai tué pour mes tondeurs, pour les donner à des gens qui sortent je ne sais d'où. » Ah, voilà la réponse de Nabal. C'est quand même moi qui ai gagné tout ça. Hein, si j'ai ce pain, si j'ai ce vin, etc., eh bien, c'est à moi et je vais le donner à mes hommes, à mes tondeurs. Je ne vais pas donner à quelqu'un, je ne sais pas d'où il vient, celui-là. Il sort d'où déjà ? Les hommes de David, alors, rebroussèrent chemin. Ils repartirent et répétèrent à leur arrivée toutes ces paroles à David. Et alors David dit à ses hommes que chacun de vous prenne son épée. Et ils prirent chacun leur épée. David aussi prit la sienne et environ 400 hommes montèrent à sa suite, tandis que 200 restaient près du matériel. Alors là, David, il n'en peut plus. Il est vraiment fâché, il est frustré, il est révolté, il est prêt à les tuer. Il part avec 400 hommes qui sont armés. Ce n'est pas pour aller saluer Nabal et puis lui souhaiter paix. Non, là, c'est pour aller tuer toute la maison de Nabal. Un des serviteurs de Nabal vint dire à Abigaïl, la femme de Nabal, « David a envoyé du désert des messagers pour saluer notre maître et celui-ci les a traités avec dureté. Pourtant, ces hommes se sont montrés très bons pour nous. Ils ne nous ont fait aucun mal et rien ne nous a été volé durant tout le temps où nous avons été avec eux. Lorsque nous étions dans les champs, ils nous ont nuit et jour servi de protection durant tout le jour, durant tout le temps où nous avons été avec eux pour garder les troupeaux. Maintenant, sache et vois ce que tu as à faire, car la perte de notre maître et de toute sa famille est décidée. Lui-même est si méchant que nous n'osons pas lui parler. » Tellement dur, Nabal, que ses serviteurs n'osent pas lui parler et ils vont trouver sa femme, Abigaïl. Et là, c'est intéressant, on voit que Abigaïl, elle n'est pas en train, elle ne va pas tergiverser. Et elle prit aussitôt 200 pains, 2 outres de vin, 5 brebis toutes préparées, 5 mesures de grains rôtis, 100 gâteaux aux raisins secs et 200 aux figues sèches. Elle chargea tout cela sous des ânes et dit à ses serviteurs, « Passez devant moi, je vais vous suivre. » Elle ne dit rien à Nabal, son mari. Montée sur un âne, elle descendit, cachée par la montagne. David et ses hommes descendaient en face d'elle, de sorte qu'elle les rencontra. David avait dit, « C'est bien inutilement que j'ai gardé tout ce que cet homme a dans le désert et que rien de tout ce qu'il possède n'a été volé. Il m'a rendu le mal pour le bien. Que Dieu traite son serviteur David avec la plus grande sévérité, si je laisse en vie jusqu'au matin un seul homme parmi tous ceux qui appartiennent à Nabal. » Pas content, hein ? Il m'a rendu le mal pour le bien. Donc, je vais le tuer. Et lorsqu'Abigaïl, au verset 23, aperçut David, elle descendit rapidement de l'âne, tomba sur son visage devant lui et se prosterna contre terre. Puis, se jetant à ses pieds, elle dit, « C'est ma faute, mon Seigneur. Permets à ta servante de te parler et écoute ses paroles. Que mon Seigneur ne prête pas attention à ce méchant homme, à Nabal, car il porte bien son nom. Il s'appelle Nabal, il y a chez lui de la folie. Quant à moi, ta servante, je n'ai pas vu les hommes que toi, mon Seigneur, tu l'avais envoyé. Maintenant, mon Seigneur, aussi vrai que l'Éternel est vivant et que ton âme est vivante, c'est l'Éternel qui t'a empêché de verser le sang et qui a retenu ta main. Que tes ennemis, que ceux qui veulent du mal à mon Seigneur, soient pareils à Nabal. Accepte ce cadeau que moi, ta servante, je t'apporte, à toi, mon Seigneur, et qu'il soit distribué aux hommes qui marchent à la suite de mon Seigneur. Pardonne la faute de ta servante. En effet, l'Éternel accordera à mon Seigneur une maison stable, car mon Seigneur soutient les guerres de l'Éternel, et on ne trouvera jamais rien de mauvais chez toi. Au verset 31, « Mon Seigneur n'aura ni remords ni troubles dans son cœur pour avoir versé le sang inutilement et pour s'être vengé lui-même. Et lorsque l'Éternel aura fait du bien, mon Seigneur, souviens-toi de ta servante. » Voilà, Abigail, elle prend vraiment la... Elle n'accuse pas son mari. Elle ne dit pas « Mais c'est la faute de mon mari, c'est Nabal, il est fou. Hein. J'y peux rien, je suis désolé, mais pardonne la faute de ta servante. » Elle prend vraiment la faute sur elle. Et David dit à Abigaël au verset 32, « Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui t'a envoyé aujourd'hui à ma rencontre. Béni soit ton bon sens et béni sois-tu, toi qui m'as empêché aujourd'hui de verser le sang et qui a retenu ma main. » Et puis il dit après, « C'est vrai que si tu n'étais pas intervenu, j'aurais tué toute la famille de Nabal. » Et David prit ce qu'Abigaël lui avait apporté et lui dit, « Monte en paix chez toi. Tu vois, je t'ai écouté, je t'ai bien accueilli. » Et après, Abigaël, eh bien, elle rentre chez elle, elle trouve son mari qui festoie. Il est complètement ivre. Ils font la fête. Il est dit qu'ils font la fête comme un roi. Il fait une monstre fête. C'est grandiose, mais il est complètement rond. Et ce qui fait que sa femme ne va pas lui parler ce soir-là. Elle fait preuve, encore une fois, de sagesse. Elle attend le lendemain que les vapeurs de l'alcool se soient dissipées et elle lui dit ce qu'elle a fait. Et alors, Nabal, il est frappé. Son cœur devient comme de la pierre. Le cœur de Nabal reçut un coup mortel et il devint aussi inerte qu'une pierre. Environ 10 jours après, l'Éternel frappa Nabal et il mourut. Et après, il y a un happy end à cette histoire. C'est que David, quand il a su que Nabal était mort, eh bien, il a proposé à Abigaël de devenir sa femme. Ils se marièrent et ils eurent en tout cas un fils. C'est vraiment une histoire assez extraordinaire que cette histoire d'Abigaël, certainement aussi que David, c'est vrai qu'il a dit qu'Abigaël était belle, mais c'était aussi pour donner du soutien, parce qu'elle se retrouvait veuve à l'époque, il n'y avait pas de rente de veuve, hein, il faut bien le savoir. Et ces femmes avaient besoin d'un homme pour qu'elles puissent continuer de vivre. Alors voilà, c'est vraiment une très belle histoire, je trouve. Je ne sais pas, vous en pensez vous aussi? C'est cool, hein? De voir comment Dieu a utilisé une personne pour faire la paix alors que David, lui, était devenu complètement furieux, furax. Et c'est ce qu'il y a de beau dans la Bible, c'est qu'on ne voit pas que les bons côtés des personnages, mais on voit vraiment ce qui est au fond de leur cœur. Et là, on voit un David qui s'est repenti à plusieurs reprises. Là encore, il s'est repenti. Mais voilà, c'est un homme, puis il avait le sang chaud. Hein. C'est quand même un guerrier, c'est pas seulement un joueur de lyre. Et puis, il devait fuir devant Saül, qui était toujours en train de le poursuivre. C'était une situation qui était compliquée, c'était lourd, c'était pas facile. Et on peut comprendre qu'à un moment donné, il pète un câble et il ne sait plus ce qu'il va faire. Mais Dieu intervient. Dieu intervient au travers d'une femme. Et on voit, parmi les caractéristiques d'Abigaël, on voit qu'elle est à l'écoute des autres. Elle écoute les serviteurs qui viennent lui dire ce que son mari a fait. Elle fait preuve d'humilité quand elle est devant David. Elle s'incline, elle dit « Pardonne ma faute ». Mais elle fait preuve de courage aussi. De courage parce que il va falloir qu'elle fasse face à son mari à un moment donné, mais il faut aller rencontrer David, qui certainement est encore en colère. Est-ce qu'il va l'écouter? Est-ce qu'il va la tuer sur le bord du chemin? beaucoup de courage. C'était une femme. Et elle est allée. Elle ne s'est pas arrêtée. On voit qu'elle n'a pas hésité. Immédiatement, dès qu'elle a su par les serviteurs ce que son mari a fait, elle a pris avec elle de quoi, eh bien, aller nourrir les hommes de David. Elle est agissante, elle agit. Elle ne reste pas à attendre. Bon, peut-être que les choses vont s'arranger, je ne sais pas. Elle agit. Elle fait preuve de bon sens, plein de bon sens, de discernement et de sens pratique. C'est vraiment des caractéristiques qui sont importantes aussi pour nous, dans nos vies, pour être artisans de paix. Et si c'est possible, parce que c'est possible, parce que Dieu, eh bien, nous a réconciliés avec lui, que le Dieu de paix nous a réconciliés avec lui. Et c'est par ce sacrifice de Jésus que nous pouvons vivre ainsi ces caractéristiques, que nous pouvons être dans l'humilité, que nous pouvons faire preuve de courage, de bon sens. Si Dieu nous a réconciliés avec lui, ben, il nous appelle à faire de même autour de nous. Pas besoin d'aller faire des grandes choses. Ce n'est pas ça. Mais c'est déjà de favoriser la paix avec celui ou celle qui est en face de nous. Est-ce que, si je suis en couple, est-ce que je suis véritablement un artisan de paix dans mon couple? Je parle du lundi matin. Est-ce que je suis un artisan de paix ou bien est-ce que je... ou pas, quoi. Est-ce que je suis un artisan de paix dans ma famille? Alors, il y a la famille proche, si on a une famille proche, si on a des enfants, voire des petits-enfants pour les plus âgés d'entre nous. Mais il y a aussi la famille plus large. Il y a la famille plus large. Et puis, il y a toujours la tante qui est tellement spéciale qu'elle est pénible, des fois, elle est fatigante. Et puis, la cousine, un tel, oh là 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 là. Et puis, le cousin, qui est tellement sûr de lui. Hein? Le cousin Jean-Pierre, il est tellement sûr de lui, le cousin Jean-Pierre. Excuse-moi, Jean-Pierre, je ne pensais pas à toi. Mais je réalise, s'il y a d'autres Jean-Pierre dans la salle, pardonnez-moi. Parlons alors du cousin Jean-Édouard. Parce que quand même, déjà qu'il s'appelle Jean-Édouard, eh bien, il ne faut pas venir lui marcher sur les pieds. Je sais ce qui est juste. Je sais ce qu'il faut faire dans cette situation. Donc voilà, comment est-ce que l'on est avec ces personnes? On voit, on entend souvent des histoires de repas de famille de Noël. Hein, à Noël. Oh là 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 là. Les repas de Noël. Qui c'est qu'on va mettre à côté de qui? Est-ce qu'on va inviter tel et tel? Ah, quand même, ça serait bien, mais d'autre part, je ne suis pas sûr que ça soit une bonne chose. Enfin voilà, est-ce que nous sommes des artisans de paix là? Est-ce que notre lieu de travail? Hein, on peut se poser la même question pour celles et ceux qui travaillent. Est-ce sur mon lieu d'étude? Pour celles et ceux qui étudient? Est-ce que je suis un artisan de paix ou bien est-ce que, au contraire, je vais faire monter la mayonnaise quand on peut au travers de critiques, de paroles malveillantes, etc. Dans mon quartier. Et puis dans mon église aussi. Parce que, voilà, on sait que tout le monde n'est pas un artisan de paix dans l'Église. Et avec l'autre avec lequel je ne suis pas d'accord. Il y a beaucoup de situations qui sont proches de nous, qui nous concernent directement. Ce n'est pas d'aller faire des manifestations comme ça, mais c'est d'être artisan de paix déjà autour de nous. Et je crois que Dieu nous appelle vraiment à cela, à ce que nous puissions être ces artisans de paix, que nous, surtout à une époque dans laquelle nous sommes aujourd'hui, dans laquelle les choses en termes de haine vont de plus en plus vite. J'ai l'impression que ces 10 dernières années, ça monte de manière exponentielle. On ne sait pas où ça va s'arrêter. Mais que l'Église soit celle et lumière. Que l'Église et ses membres, évidemment, soient des artisans de paix autour de nous. Et pour cela, nous avons vraiment besoin de Dieu dans nos vies. Ce n'est pas à la force du poignet, parce qu'un jour, il va se casser le poignet. Puis on va s'énerver. Hein, vous voyez, des fois, il y a une personne qui tue des gens de son entourage, et puis les réactions des gens d'à côté. « Oh, mais il était tellement gentil. Il était tellement brave, cet homme. Il était tout calme. On n'aurait jamais pensé ça de lui. » Ben oui. Donc, invitons vraiment Jésus dans nos vies le lundi matin à partir de 6 heures. Parce que ça commence peut-être à 6h30, les difficultés. Parce qu'elles seront là tous les jours, pour moi aussi. Hein. Donc vraiment, demandons au Seigneur. Là, je pense aussi aux chrétiens qui sont persécutés. Puis je profite de faire un coup de pub pour la journée de portes ouvertes qui aura lieu le 28 septembre à 14h à la Marive à Yverdon. Et puis ensuite, il y a pour les jeunes la All Day Night, qui est la nuit aussi pour les jeunes, pour les chrétiens persécutés. Vous imaginez, vous avez des personnes qui viennent massacrer votre famille ou bien qui vous mettre à l'écart de la communauté parce que vous êtes chrétien et que tous les autres ne le sont pas, mais vous avez renié votre foi précédente. Donc, on vous met de côté. Aimer, être un artisan de paix dans ces conditions, ça ne peut être que par l'œuvre de Dieu. Ça ne peut être que par l'œuvre de Dieu. Donc, nous avons besoin, on l'a chanté, il nous a été rappelé, nous avons besoin du Seigneur dans nos vies. Et ça ne veut pas dire être mou hein, et servile. Pas du tout. Ça demande du courage. Ça demande du courage parce qu'il faut aller parfois au-devant des situations. C'est d'aller régler des situations. Avec la personne avec laquelle je ne suis pas d'accord, c'est ben voilà, d'aller lui dire, parce que sinon après la situation elle pourrit. Et puis voilà. C'est parfois, c'est aussi monter. C'est monter sur la brèche aussi à certains moments. On a vu, je ne vais pas faire trop long, mais c'est intéressant de lire la lettre, la pétition qui a été adressée par l'église La Porte Ouverte à Mulhouse au président de la République française suite à la séance d'ouverture des Jeux Olympiques. Ben, c'est extrêmement intéressant, vous pouvez la trouver sur leur site, c'est extrêmement intéressant de lire ça, parce que c'est une lettre qui est pleine d'amour, qui n'est pas en train de dire « bande d'incapables, vous n'avez rien compris », puis c'est scandaleux de faire ci, c'est scandaleux de faire ça, c'est de dire « eh bien voilà, monsieur le président, voilà ce en quoi je crois. Je crois en Dieu, je crois en Jésus-Christ. » J'ai l'impression qu'on ne nous laisse plus la parole, qu'on n'a plus le droit de vivre notre foi de manière libre, alors qu'on donne la parole à d'autres groupements. Eh bien, je vous demande vraiment de respecter la constitution de notre pays pour que nous puissions vivre notre foi librement. C'est beau. Ça c'est des manières de réagir qui, je pense, sont nécessaires. C'est de ne pas laisser tout passer comme ça, mais c'est de le faire avec amour. Quand le cœur est juste, le caractère est beau. Lorsque le caractère est beau, l'harmonie règne dans le foyer. Quand il y a de l'harmonie dans le foyer, il y a de l'ordre dans la maison, dans la nation. Lorsque l'ordre règne dans la nation, la paix règne dans le monde. Donc on voit qu'on peut prier pour la paix dans le monde, mais ça part de nous. Ça part de nous. Ça part de ces cercles concentriques qui parlent de nous. Où est-ce que j'en suis ? Où est-ce que j'en suis dans ma relation avec Dieu ? Est-ce que je suis réconcilié avec Dieu ? Est-ce que j'ai l'impression que je prends de la distance avec Dieu, alors que Dieu m'a réconcilié avec lui ? On aura l'occasion, je vous invite à venir mardi soir, nous avons une réunion de prière, vous le savez, ça sera dans les annonces tout à l'heure, mais voilà, on va prier pour la Suisse, mais on va aussi prier pour nous, pour nos cœurs, pour notre réconciliation avec le Seigneur. On va prier pour les églises aussi, afin qu'elles puissent aussi être vraiment ces porteurs de paix autour d'elles. Et on priera pour nos autorités. Mais ça passe par nous, au commencement. Ça commence par nous, enfin par Dieu, ensuite par nous et autour de nous. Je vous propose de prier. Seigneur, merci parce que toi, tu nous as réconciliés avec toi. Alors que nous ne méritions rien, alors que nous avions préféré prendre notre propre chemin, qu'on n'en avait pas grand-chose à faire de toi, toi, tu es venu. Tu es venu et Jésus, tu es mort sur une croix pour chacun d'entre nous. Et là, eh bien, tu nous as fait enfants. Tu as fait de nous tes enfants, tes héritiers. Eh bien, Seigneur, tu as des projets de paix, que nous puissions vraiment vivre cette paix que tu nous as acquise, toi, et que tu nous donnes, non pas comme le monde donne, mais en abondance. Seigneur, que cette paix puisse remplir nos cœurs et que nous puissions la transmettre autour de nous, transmettre la paix que tu nous as donnée à d'autres. Et transmettre aussi, eh bien, que ça soit une réalité pour de plus en plus de personnes, Seigneur, qu'ils soient réconciliés avec toi. Alors ce matin, eh bien, s'il y a des personnes aussi qui ne sont pas réconciliées avec Dieu, eh bien, c'est possible. Je vous en supplie, écrivait l'apôtre Paul à l'église de Corinthe, soyez réconciliés avec Dieu. Alors c'est encore le jour, c'est encore un jour de grâce. Et si vous souhaitez, eh bien après on peut prier avec vous, pour vous, par rapport à cette réconciliation. Merci Seigneur, parce que en effet on l'a chanté, tout est possible avec toi, rien n'est impossible. Alors nous voulons vraiment encore louer ton nom ce matin, nous soumettre à ta volonté, recevoir ta paix dans nos cœurs, recevoir ton amour pour en être porteur. En ton nom, Jésus. Amen.